Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
C'est la première heure de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Vincent Delerme. Bonjour Vincent.
Salut Eric.
Ça va ?
Bah bien.
Alors, qui est Vincent Delerme ? Réponse comme ça.
Et je suis le garçon. Celui qui vous aimait sous la neige à Beaumont, sur la plage en juillet. Je suis celui qu'on voit sur cette photographie. Cowboy, cousin Thomas, panoplie. Je suis le garçon, celui qui vous aimait. J'ai changé, pardon. Quelquefois, toi, tu me reconnais. Je suis le garçon délavé en tailleur, pareil à l'intérieur.
Vincent Delerme, c'est la chanson qui clôt ce nouvel album. L'album arrive vendredi, alors semaine importante.
C'est la plus rythmée de l'album.
C'est pas vrai. Non, mais tu sais, j'ai reconnu aussi des chansons que j'ai adorées sur les premiers albums. Je pensais à Châtenay-Malabry, j'ai pensé à plein d'autres chansons, à l'Angleterre aussi. Bref, un nouvel album pour Vincent, c'est quoi? Alors, puisqu'on commence la semaine et que l'album sort vendredi, c'est une tension particulière?
Ouais, c'est surtout un plaisir, tu sais, parce que c'est bête à dire, mais... Quand j'ai commencé, je me disais, ah, c'est super de pouvoir faire des disques, de pouvoir faire des spectacles, mais pourvu que ça dure un peu, pourvu que tu puisses surtout avoir le moyen de faire les disques que tu as envie de faire, les spectacles que tu as envie de faire, sans trop tenir compte de qu'est-ce qui vient de marcher juste avant et tout ça. Et ça, j'ai eu vraiment de la chance de travailler avec les gens qui m'ont laissé avancer à ma façon. Et typiquement sur cet album-là, c'est quelque chose que je ressens assez fort, parce qu'il ressemble pas mal à... Voilà, ce que j'avais envie de faire et donc non, c'est plutôt de juste ouais, de un peu merci et beaucoup de plaisir.
Il va se passer quoi alors dans cette semaine importante qui va t'amener un nouvel album? Beaucoup de promos, tu vas être sur tous les feux?
Oh, écoute, bah oui, et c'est heureusement parce que sinon si c'est pas cette semaine-là, c'est jamais. Mais par contre, c'est vrai que après c'est dans le détail, les témoignages des gens. Ce qui est étrange avec ce que je fais, c'est que j'ai jamais été par exemple quelqu'un qui est très fort pour faire un énorme single sur un album, mais par contre j'aime bien construire des albums en entier et que chacun pioche quelque chose de différent. Donc j'ai toujours hâte de ce moment où les gens te pointent quelque chose qui les a touchés eux, et c'est jamais le même endroit, c'est jamais la même phrase. Des fois c'est aussi ah mais moi j'ai vécu ça, alors c'était pas à cet endroit là mais c'était, enfin tu vois, les gens ils réadaptent aussi. Et c'est ça qui m'a toujours fait envie de parler de choses au départ assez personnelles et que les autres personnes se retrouvent dedans.
Alors, c'est aussi un moment étrange quand tu pars en promotion qui consiste à expliquer, à mettre des mots sur tes mots, à mettre des mots sur tes notes.
Mais j'aime bien ça en fait, parce que je sais qu'il y a une pause des gens qui sont interviewés, qui sont en promo, qui disent ah la promo j'aime pas, si j'ai fait un album, des chansons, c'est justement pas pour dire par ailleurs. Mais en fait si, parce que tu complètes en fait des fois aussi, il y a des chansons qui peuvent être un peu mystérieuses, tu peux les éclairer un peu en parlant. Et puis d'une manière très bête aussi, le fait qu'on te pose la question, ça témoigne d'un intérêt des gens en face, et ça c'est quand même un gros privilège. Et puis aussi des fois tu... C'est bête, mais il y a des chansons. Des fois, tu te rends compte. Même moi, j'ai l'impression de mieux me familiariser avec elles en parlant ou en voyant ce que les gens m'en disent, en tout cas. Ouais.
Est-ce que les gens t'ont appris des choses sur tes propres chansons? Tu sais, sur des choses inconscientes que tu peux dire dans tes chansons sans le savoir.
Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais surtout, ce qui arrive des fois, c'est que tu vas voir après un concert un couple qui vient vers toi, qui dit alors sur la vie perdue du Gabon, moi avec ma copine, on n'est pas d'accord. Moi, je pense que c'est un mec qui retrouve sa nana après 10 ans. Enfin, et tout le monde imagine des choses différentes. Donc c'est drôle ce truc-là.
Cette chanson rigolote, Vincent Delerme, c'est que tu l'as écrite, paraît-il, dans un avion. Je l'ai appris en lisant un des livres, si on y reviendra tout à l'heure, dans un avion, alors que c'était une piqûre qui s'était réveillée.
Les piqûres. Parce qu'en fait, je parle aussi de la vipère. Que la vipère du Gabon, écrit rapidement.
En une demi-heure, voilà, pardon, c'est ça, j'ai confondu les deux en fait.
Ouais. En fait, c'est rare que ça m'arrive, très rarement d'écrire vite une chanson. Puis en général, en plus, j'aime pas trop. Ça fait vraiment, ça donne. Tu sais, il y a souvent cette mythologie comme ça du mec qui voit un poster de Capri et puis qui écrit Capri, c'est fini en 10 minutes sur une nappe. Donc du coup, évidemment, ça n'aide pas les chanteurs. Tout le monde pense que c'est des branleurs après. Donc souvent, c'est plus long. Mais La Vipère du Gabon, faut bien reconnaître que j'avais écrit rapidement. Ouais.
Vincent Delerme est avec nous. On va commencer par une chanson à toi. Ensuite, la programmation, c'est toi qui vas la réaliser. Moi, dans cet album, je t'en ai parlé quand t'es arrivé. C'est assez mignon d'ailleurs. d'ailleurs, parce que j'avais un téléphone portable dont je pensais que c'était celui de Vincent. D'ailleurs, ça a dû être le tien à un moment, je sais pas. Mais c'était celui du patron de ta maison de disques. Et quand j'ai reçu l'album, j'ai écouté. Et la chanson qui vient maintenant, je l'ai trouvée bouleversante. Et j'ai envoyé un message énamouré en disant que cette chanson est formidable. Ça s'appelle Je ne veux pas mourir ce soir, Vincent Delerme. On va l'écouter. Et j'ai eu une réponse de l'autre Vincent, frère beau, qui m'a dit bah, je transmettrai. Ce qu'il a pas fait.
Je peux t'arrêter quand même tout de suite, que les gens ne pensent pas que j'ai refilé mon numéro à mon directeur de label. C'est un autre numéro.
C'est moi qui me suis trompé. Voilà. De Vincent.
Je te remercie.
Je les avais. C'est le premier extrait de l'album, donc. L'album s'appelle À présent. J'ai écouté cette chanson au début de l'été, quand on nous a fait envoyer les disques. Et évidemment, j'ai pensé au Bataclan. Et à la fois, j'ai écouté les paroles et je me suis dit, bah, peut-être pas. Qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson, Vincent? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter?
D'une façon générale, en faisant le disque, j'étais pas. J'avais fait une chanson qui parlait clairement des attentats et qui n'a pas été sur le disque parce que je me disais non, c'est pas. Je sentais pas. Et puis j'avais l'impression que c'était quelque chose qui vieillirait pas bien. Et j'avais du coup le sentiment de faire un album qui n'avait aucun rapport avec tout ça.
Mais en fait, il y a des questions.
Quand il a
questions.
Été fini, l'album, il y a une sorte de grande ombre au-dessus du disque. En tout cas, quelque chose un peu en filigrane comme ça qui m'a fait prendre conscience que ça avait existé et que c'était là. Mais okay. Cette chanson-là, typiquement, bah, elle est, c'est une chanson en plus assez légère finalement. Parce que ça, le titre peut paraître un peu dramatique, je ne veux pas mourir ce soir, mais c'est juste, je me balade, il y a une fille qui marche devant moi et je photographie ça, tu vois, avec mes yeux et j'ai envie de retenir le temps d'un moment. C'est comme ça, sur le disque, il y a beaucoup comme ça d'instants que j'ai voulu un peu fixer. Et c'est juste pas le moment de mourir, tellement c'est bien, mais c'est ça que ça veut dire.
Il y a une autre chanson où j'ai pensé aussi aux attentats. À présent, elle s'appelle Vivre dans le présent. Quand tu évoques d'ailleurs Martia Baila, c'est rigolo parce que tu l'as sorti dans la programmation de ce soir. Je sais pas si on l'écoutera.
J'ai essayé de faire quelque chose de cohérent.
Mais voilà l'intelligence de Vincent Delerme. Voilà, dans cette chanson aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait, une envie d'intensité, tout comme la vie devant toi.
Bien sûr, c'était un truc qui était important pour moi sur ce disque. C'était effectivement une phrase qui est dans la vie devant soi, qui est la première chanson de l'album. qui était sans comme tu es vivant, comme les autres avant toi, et de ressentir cette chose-là. On sait tous qu'on a ce parcours à faire, mais bon, pour plein de raisons, dans la vie de tous les jours, on est amené à s'énerver sur un truc, sur un détail, ou à oublier ça. Donc ça a été, c'est un peu bizarre à dire, mais s'il y a une seule vertu vague à tout ce qui a pu se passer depuis quelque temps, c'est que ça nous a ramené quand même aux choses importantes et à nous demander qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui est important pour nous, quoi. Et donc là, sur cet album, j'avais envie de ça. C'est vrai que c'est un disque où il y a pas de chansons vraiment marrantes, c'est assez au premier degré, c'est sérieux, je sais pas si c'est le mot, parce que la musique est souvent légère. Mais en tout cas, j'avais envie de dire des choses qui comptaient pour moi, sans distance.
Et musicalement, j'ai retrouvé des ambiances d'un album que j'avais adoré, qui était Kensington Square. Bizarrement, j'ai retrouvé des sons anglais. Est-ce que je me trompe ?
Non, carrément. Ça me fait bizarre que tu dis ça dans le décor. C'est une chanson qui était vraiment sur cette énergie-là, avec
l'histoire d'une femme qui a vécu une histoire d'amour à Londres.
Ouais, ouais. Et puis.
D'ailleurs, est-ce que j'ai raison de dire que c'est une femme ?
Oui,
dans ma tête, c'était une femme, bizarrement.
Dans mon esprit, c'est une histoire qui parle de l'histoire d'amour de Jane avec Gainsbourg au début.
Okay.
Et en même temps,
la voix de Jane.
Tu dis ?
D'où la voix de Jane ?
Ouais, d'où la voix de Jane. Et en même temps, je voulais pas non plus que ce soit, tu vois, c'est pas truffé de plein de choses liées à eux personnellement. Il y a quand même cette allusion à un collier qu'elle avait offert à Gainsbourg avec le rubis qu'on connaît sur plein de photos là qu'il a autour du cou et qui s'est fait piquer un soir dans un taxi. Il avait pris des mecs bourrés avec lui et qui lui ont passé le bras autour du cou, qui ont volé le rubis et après ils ont plus rentré chez lui parce qu'ils pensaient que Jane allait l'engueuler. Mais après, c'était plus une chanson. Oui. Comme ça, sur une personne qui a connu un grand amour, qui revient sur les lieux des faits et qui se dit, tiens, ça peut paraître mélancolique, mais en fait, non. Moi, je suis toujours dans ce décor-là. J'ai toujours la liberté de regarder ça. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire avant, quoi. C'est-à-dire se dire, je suis vivant, je peux faire ça, je peux penser à des choses du passé et je peux vivre aussi bien des choses complètement au présent dans le même temps.
Il y a aussi quelque chose de très touchant, d'ailleurs qui rejoint un livre qui est sorti, une série de trois livres qui est sorti chez Actes Sud. Je pense au livre C'est un lieu qui existe encore avec ça.
La dernière fois que je t'ai vu, tu ne ressemblais déjà presque plus à toi. Ton sourire avait disparu et cette fois, c'était sûr qu'il ne reviendrait pas. La peau sur ton visage n'était plus celle des images de toi en été, assis à des terrasses de café. Partout en France où tu avais pu toute ta vie trouver des terrasses de café en été. Je cherchais l'infirmière dans les couloirs de l'hôpital. Tu as dit je sais plus quoi inventer maintenant. Excuse-moi, je suis un peu dans le cirage.
C'est l'histoire de ton grand-père disparu qui est très présent en fait au travers de ce livre où tu racontes finalement des conversations avec lui, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu. Puis ça m'a fait penser à des trucs très perso aussi. C'est ça l'universalité d'une chanson. T'avais besoin d'écrire sur ça.
Écoute, c'est vrai que c'est une passerelle qu'il y a vraiment entre l'album et les livres de photos là que je vais publier cette semaine aussi. Parce que il y a un des livres qui concerne effectivement, qui sont des entretiens que j'ai eu avec lui il y a 4 ou 5 ans.
C'est un lieu qui existe encore, c'est le nom du livre.
Il me parlait. Au début, je voulais pas du tout faire un livre où je savais pas quoi en faire. D'ailleurs, je l'ai filmé quand il me parlait de ça. C'était pour moi, vraiment pour me dire, c'est quand même. Il est mort au début de l'année, et tu vois, moi j'ai 40 ans, donc je l'ai connu vraiment beaucoup et tard. Et c'était une énorme personnalité, c'était quelqu'un que j'ai adoré.
Quel côté ?
Côté de ma maman. Ouais. Et du coup, 4 ou 5 ans avant qu'il s'en aille, je lui avais dit, tu veux bien que je vienne t'interviewer sur ta jeunesse jusqu'à la naissance de ma mère, parce qu'il est typiquement le genre de personne qui a connu la guerre mais qui n'en parlait pas beaucoup, et ou alors par fragments, et du coup je ne savais pas trop me repérer là-dedans, et comme il était un peu hypermnésique et qu'il se souvenait de tout hyper précisément, je trouvais ça dommage de pas le faire parler de tout ça. Donc j'y étais chez lui, en banlieue, j'ai interviewé plusieurs journées, il a fait ça hyper professionnellement, de temps en temps il me disait, bon mais nous en reparlerons un petit peu plus tard, j'imagine dans l'entretien, enfin tu vois, il jouait le jeu à bloc. Et c'était super parce qu'il a connu un Paris dont il se souvient très précisément, et notamment beaucoup de souvenirs de la salle de la Cigale où sa mère était ouvreuse de cinéma. Et il me raconte qu'il s'asseyait toujours à la même place, tout en bas à gauche, en attendant que sa mère ait fini son service et qu'elle le ramène. Et après, quand il venait voir mes concerts à la Cigale, il s'asseyait toujours à cette place-là. Donc c'était émouvant. Et puis rien que pour ça, tu vois, par exemple, j'étais très heureux aussi de refaire la Cigale là au mois de novembre qui vient. Ça avait un sens pour moi.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça t'a manqué de faire de la scène, Vincent Delerme ?
Écoute, j'adore faire de la scène. Après, quand tu finis une tournée, t'es content aussi, parce que tu te paramètres d'une manière un peu bizarre de toute façon, de trouver ça, entre guillemets, normal, d'aller devant 800 personnes pour faire le malin. C'est un truc qui est physiologiquement pas normal. Donc, t'es pas complètement dans le même état selon quand t'es en tournée ou quand t'es dans les phases pas en tournée. Et j'aime bien les deux, franchement. Mais j'aime bien les deux parce que je sais que j'en referai toujours à un moment donné.
Il y a un truc chez toi. Je t'ai vu cet été là à l'hôtel de ville. T'as donné un concert impromptu pour remplacer quelqu'un que je sais que tu aimes beaucoup.
T'étais là.
Mais j'étais là. J'ai pas voulu t'embêter, mais j'étais assis dans les somptueux salons de l'hôtel de ville et je t'ai vu avec ton piano et j'ai beaucoup ri. Et c'était très chouette. Et il y a un truc très particulier sur les concerts de Vincent Delerme. C'est qu'en fait, tu fais marrer les gens et que tu peux pas t'empêcher de faire des blagues autour des chansons. C'est quoi? C'est une manière d'être anti-star à ta façon?
Oh, écoute, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai que c'est un peu. Ce qui est particulier, c'est que les gens n'ont pas du tout nécessairement cette vision-là de moi, quand je suis en promo, quand je fais.
C'est hyper marrant, le concert de Vincent Delerme.
C'est. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien cette sensation de faire rire sur scène. Et après, c'est aussi que quand tu as toute la disponibilité des gens sur une soirée, tu les emmènes un peu dans une sorte de système de pensée que tu construis comme ça au fur et à mesure du spectacle. Tu t'évoques un truc en début de concert, puis tu y reviens un petit peu plus tard. Enfin, tu peux construire les choses comme ça. Ça m'a toujours plu d'envisager les spectacles comme ça, de manière un peu théâtrale.
Mais tu as fait du théâtre. Enfin, tu as écrit du théâtre, mais ouais. Petit, tu as appris le théâtre.
Oh non, j'ai fait comme plein de gens des clubs théâtre de collège et lycée. Voilà.
Il y a un truc que j'ai rarement vu chez les chanteurs, c'est le petit geste en silence. Tu sais, pencher la tête ou le petit soupir. Ou ça, le truc. C'est un peu ta signature. Et à la fois, c'est hyper rare chez les chanteurs.
En fait, ça, effectivement, c'est plutôt des choses de théâtre, la gestion du silence et tout ça. Et après, c'est un truc un peu de la scène, en fait. Évidemment que tu peux travailler, que tu peux progresser, évidemment. Mais c'est un peu comme de faire bouger ses oreilles, quoi. Tu sais le faire ou pas, quoi. Enfin, t'as un truc. Les premières fois que j'étais sur scène, je trouvais ça très agréable. Je voyais pas du tout où était le péril là-dedans. Et le fait de prendre du temps, des temps de silence, ça a toujours été un truc que je trouvais naturel et qui devient fort une fois que la salle est pleine. Parce que par contre, en répétition, quand tu fais ça, toute ton équipe se met à flipper, de se dire
oups.
Ah, maintenant, faut que t'enchaînes, mon gars. Mais en tout cas, voilà. Donc, ces concerts-là, notamment ceux qu'il y avait avant l'été, c'est des concerts en plus hors tournée. Donc, c'est des moments un peu pour se faire
piano,
plaisir là-dessus.
Ouais. Mais c'était très cool. Et puisqu'on parle de musique et puisqu'on parle de chanteurs, le dernier extrait que je vais vous faire écouter ce soir de ce nouvel album de Vincent Delerme qui s'appelle À présent, c'est une histoire de chanteur.
Encore Paris la nuit, encore la fille partie, les amours chrysanthèmes, les chanteurs sont tous les mêmes, encore le songwriter qui se recoiffe et qui pleure, le plongeon dans la scène.
Une histoire de chanteur, donc les chanteurs sont tous les mêmes, un duo avec Benjamin Biolay, un ami de la maison, qu'on embrasse. On embrasse Bruno aussi par la même occasion, les chanteurs sont tous les mêmes. C'est mignon ça, tu rentres dans les cases de ces chanteurs dont tu te moques.
Ouais, il y avait un double truc, un peu un double niveau dans la chanson, parce qu'il y a tout dans les couplets, il y a effectivement une sorte d'auto-parodie de la petite panoplie que moi j'ai eue, que Benjamin peut avoir aussi, du chanteur un peu littéraire, avec sa veste, un peu tourmenté, qui vient de se faire plaquer, tout ça. Et c'est un truc qui a toujours existé, il y en a eu d'autres avant nous. Et en même temps, sur les refrains, je voulais qu'il y ait aussi beaucoup la dimension plus complices qu'on peut avoir les uns avec les autres et aussi et un peu particulière parce qu'on se regarde tous de loin. Des fois on se dit pourquoi il fait ça, il a tort de faire cette émission, ou c'est super là comme sa chanson, j'aimerais bien l'avoir écrite, enfin tu vois. C'est pas neutre, c'est pas un truc et en même temps à l'arrivée, je sais pas, il y a une sorte de petite planète, faut pas en rajouter là-dessus parce que les gens s'imaginent pas que c'est une sorte de grande maison où tout le monde s'entend bien et s'adore, mais en tout cas moi j'aime bien vivre en compagnie d'autres chanteurs. C'est une catégorie socio-professionnelle que j'aime bien.
Ça ressemble à quoi, Vincent Delerme, une conversation de chanteur? On se parle de chansons, on se parle de métier. Parce que on peut, comme entre animateurs, on peut se dire des trucs que entre animateurs ou que entre chanteurs, je suppose, non?
Bien sûr. Oh, on parle essentiellement d'Éric Jean-Jean quand même quand on se retrouve.
Ouais, je sais. Mais à part Éric Jean-Jean.
Écoute, ça dépend des moments.
Ça parle de technique.
En gros, on se demande où on en est. Donc c'est basique. C'est-à-dire soit est-ce que phase album, phase tournée, phase écriture. C'est un peu la vie triangulaire des chanteurs. C'est un peu ça. C'est en trois temps. Et partant de là, bah voilà, si c'est album, on va avoir tendance, je te dis, c'est très technique, hein, on va se dire, bah, tu t'enregistres où ça, avec qui, d'accord. Est-ce que tu as choisi quelqu'un pour les arrangements de différents de la fois d'avant, est-ce que c'est les mêmes équipes, enfin, tu vois. Si c'est en tournée, c'est un peu, est-ce que tu es en forme, et si c'est écriture, est-ce que tu es content de ce que tu fais, enfin, en gros, c'est ça, quoi, les axes, et puis après, heureusement, on arrive aussi à parler d'autres choses. Et à dire du mal d'autres chanteurs qui sont pas là dans la discussion.
C'est bien,
évidemment.
C'est très bien.
C'est la base.
Mais parce que mine de rien, vous êtes une génération qui se suit, une génération hyper intéressante qui suit depuis 15 ans, quoi. 15, 16 ans maintenant. Vous êtes arrivés tous, enfin tous. Je parle de Vincent, je parle de toi, je parle de Benjamin, de Bruno Benabar, de Cali qui est arrivé à peu près en même temps que vous,
Raphaël,
de toute cette
jeune,
de Raphaël,
Camille, Jeanne Chéral, bien sûr.
Ouais, sublime Jeanne Chéral.
Et c'est sûr que c'est chouette pour nous parce que quand on est arrivé, il y avait un peu, je dis pas qu'il y avait une sorte de d'hésitation, mais on savait pas ce que ça allait donner, si c'était des gens qui allaient rester, qui allaient s'inscrire dans la durée et tout. Mmh. Donc moi, ça me fait plaisir que tout le monde soit là encore aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on écoute, Vincent Delerme ?
Eh ben, écoute, du coup, j'imagine que c'est le moment d'écouter. Peut-être Miossec, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour cette génération-là.
Ouais,
d'ailleurs,
grand frère.
La première fois que j'ai fait un truc sur scène avec Biolay, c'était une reprise de Miossec qui s'appelait Non. Mmh. C'est quelqu'un qui a inventé quelque chose quand même. Et puis, dans les années 90, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Il y avait Dominica, il y avait Philippe Catherine. Mais il n'y avait pas tant de gens qu'on entendait en français et ça a été important. Ouais.
Mmh. Alors là, on l'écoute dans une reprise en plus, Salut les amoureux, qui est une chanson de Joe Dassin. Ouais. C'est rigolo d'exercice.
Ça me faisait hyper plaisir. En fait, j'ai écouté ce disque en revenant des trois jours. J'avais fait les trois jours pour. C'était avant que Jacques Chirac ne les supprime pour faire l'armée. Et en fait, en revenant de Blois, j'étais complètement déprimé.
T'as fait l'armée ?
Je ne l'ai pas faite parce que Jacques Chirac est devenu président. C'est vrai en plus. Hein. Sinon, je devais la faire l'année où j'ai sorti mon premier disque. J'étais sursitaire. Et là, j'étais arrivé au bout de mon sursis. Et bref. Et donc, je l'ai acheté cet album en sortant de ça, en étant un peu fou comme ça. Et je l'ai écouté dans le train du retour et c'est un gros souvenir.
Les matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à se dire. C'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, faire un compte de fées, mais on a passé l'âge où on n'y croirait plus. On s'est aimé quand on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Thank you.
Salut les amoureux sur RTL, choisi par Vincent Delerme. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure quand tu t'écoutais toi-même chanter. Ça te fait quel effet ?
Ce qui est super, c'est les premières fois qu'on entend un nouvel album. Parce qu'en fait, tu as écouté les chansons en studio, un peu chez toi au moment des mix pour voir si ça allait. Mais là, du coup, c'est comme si ça t'échappe, ça t'appartient plus. Et c'est un moment qui est forcément un peu magique.
Tu te souviens la première fois que tu t'es entendu ?
Je parle du phénomène d'entendre la chanson. Ma chanson est un peu magique.
Oui, je pourrais demander à Catherine Lara, elle en a fait une.
Je sentais que Catherine Lara allait arriver.
Tu sentais poindre la Catherine Lara en moi. Tu te rappelles la première fois que tu t'es entendu à la radio, Vincent ?
Je me souviens. En fait, j'ai un souvenir comme ça. Quand j'étais à Rouen, j'habitais encore à Rouen quand j'ai sorti le premier disque. C'est pas la radio, mais je suis passé dans une rue. Et il y avait mon disque qui passait dans un appartement dont la fenêtre était ouverte.
Oh,
et c'était une rue où j'étais beaucoup passé étudiant, où j'avais beaucoup rêvé d'être chanteur, en gros. Et du coup, je me souviens, c'était Monologue Shakespearien, la chanson qui passait. Et c'était un sentiment fort, évidemment.
On est en train de s'enfoncer dans la nuit. On est sur RTL jusqu'à 1h du matin avec Vincent Delerme. C'est quoi ton rapport à la nuit, Vincent ? Couche-tard. En même temps, quand t'es papa de jeunes enfants, c'est un peu compliqué d'être couche-tard.
Ouais, en même temps, c'est un peu le moment aussi où tu peux bosser un peu quand ils sont couchés, mais il y a pas mal de relevage d'enfants si t'as le malheur de continuer à faire du piano et tout ça. Moi, d'une façon générale, j'ai toujours un peu coupé les choses quand je suis chez moi. Je suis pas très, entre guillemets, chanteur. Non, c'est un peu le moment.
Attends. Quand t'es chez toi, t'es pas trop chanteur.
Non. Chez moi, il y a même pas de micro. Enfin, tu vois, je veux vraiment pas que mes enfants se disent. J'ai toujours eu un peu peur du syndrome d'un truc un peu trop différent de la vie des autres gens. Enfin, pour, tu vois, que pour les enfants, ce soit un peu compliqué. Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail de ça, mais j'aime bien qu'ils se disent juste, bon, bah, mon père, il fait des spectacles, et puis, apparemment, ça se fait tout seul, quoi. Il ne voit jamais travailler.
Il fait des pestacles. Et mais alors, tu les fais où, tes chansons? Parce que dans un des bouquins, justement, qui sort à Actes Sud, tu dis, il n'y a pas de meilleur piano pour composer, il n'y a pas de meilleure lumière. C'est-à-dire,
c'est vrai. Et justement, c'est quelque chose qui fait que j'ai tendance à pas écrire des chansons la nuit. Parce que la nuit, t'as une sorte de vertige, t'as bu un coup, il fait nuit, l'ambiance est plus belle et t'as vite l'impression que que c'est génial, qu'il y a une sorte d'atmosphère. Et puis tu réécoutes le matin et t'es souvent un peu déçu. Donc c'est vrai qu'une chanson qui tient la route à 11h12 du mat, en général, elle est tout terrain. Alors qu'une chanson qui est super à 4h15 du matin, c'est moins bien souvent.
Tu casses un peu le mythe du chanteur. T'es plutôt dans tous les gens que j'ai reçus, c'est plutôt les écrivains qui écrivent le matin.
Ah oui.
Ouais.
Non, mais je sais pas. Après, sur les chansons, c'est vrai ce qui est dans le bouquin, de se dire que c'est un truc qui est triste, alors que ça fait longtemps que maintenant j'en fais. Par exemple, tu me dirais, là, il faut que tu me pondes une chanson pour demain, c'est très important et tout ça. Je pourrais pas te dire, du coup, s'il faut en faire une tout de suite, il faut que j'aille à tel endroit, que j'écrive sur tel cahier, que j'ai tel instrument. C'est jamais la même histoire, c'est un peu bizarre parce que pourtant c'est quand même pas sorcier, c'est jamais qu'une musique, un texte et tout ça, mais selon les je sais pas, il y a pas deux fois où l'histoire se répète et il y a pas un horaire pour écrire spécialement, voilà.
Je vais te poser une question à laquelle tu sais jamais répondre, je l'ai lu dans le bouquin. Alors, la question c'est parole ou musique en premier ?
En fait, c'est vraiment quand même plutôt la musique en premier. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que des fois, par exemple, il y a musique et musique. C'est-à-dire qu'il y a ça peut être juste la mélodie du piano. Mais par exemple, sur cet album, ça a été même plus loin que ça. C'est-à-dire que les chansons souvent étaient déjà orchestrées et il n'y avait pas encore de paroles. Je ne suis pas du tout arrivé pour le disque en ayant déjà les chansons d'un bloc. Et je voulais qu'on avance dans l'orchestration et tenir compte de ça aussi pour écrire les textes.
Il y a un morceau orchestral dans l'album 2 d'ailleurs, si c'est mémoire.
C'est celui que j'ai pas réussi.
Non, c'est pas pour
non,
ça.
Non, mais il y avait un texte mais qui convenait pas, donc du coup on a du fait d'avoir travaillé de cette manière-là, ça a fait qu'on était plus amené à écouter le son et à faire exister beaucoup l'arrangement en tant que tel. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis dit, bon, ce morceau-là, je préfère le laisser comme ça. Plutôt que de mettre un texte dont j'étais pas complètement convaincu. Puis ça me plaisait aussi parce que sur le disque, dans les introductions, dans les fins des chansons, on a souvent laissé les morceaux un peu durer, essayer de les relier entre eux d'une manière un peu cinématographique comme ça. Et ça permet aussi de repenser aux paroles qu'on a entendues, de les entendre autrement, par exemple.
Il y a une obsession cinématographique chez toi, Vincent. Ça commence par c'est Truffaut. Hein, tu fais une thèse ou tu fais un mémoire sur Truffaut alors que t'es étudiant en lettres
modernes. Ma maîtrise.
Ta maîtrise, ouais.
J'aimerais que ce soit une thèse, mais ce n'était qu'une maîtrise.
Oui, mais après, t'es devenu chanteur, on peut pas tout faire.
Exactement.
t'as fait une thèse de chanson. Non, mais je veux dire, il y a cette obsession cinématographique, il va falloir que tu y ailles un jour, peut-être, non ?
Écoute, je crois pas, parce que... Ah, mais peut-être que j'irai, c'est pas ça ce que je veux dire, mais c'est que, en tout cas, j'aime bien utiliser le cinéma comme ça, des choses du cinéma. J'aime bien que les chansons commencent toujours par une sorte de moment très visuel dans les quelques premières phrases, qu'on voit tout de suite où on est, planter un décor, essayer de décrire quelque chose, que dans l'atmosphère sonore, j'ai toujours utilisé des voix off dans les spectacles, tous ces trucs-là.
Mais j'aime bien ramener tous ces trucs là.
Ouais. Et j'aime bien ramener tous ces trucs de cinéma à la chanson en fait, ça, et nourrir les chansons de ça. Et ça, voilà. Et ça, souvent, ça me convient comme ça, sans me dire, tu vois, par exemple, j'ai jamais joué au cinéma, alors que les chanteurs, on leur propose souvent quand même de faire des rôles.
Et pas à toi ?
Si, si, plein de fois, mais c'est pas mon fantasme. Mmh. Ouais.
Je reviens à la nuit avec Vincent Delerme. Étends-toi sur mon divan. T'as du mal à dormir, tu dors facilement, t'es un oiseau de nuit ou pas du tout ?
Non, moi, en fait, ça dépend. Par exemple, t'as vraiment ça après les concerts. C'est des phases où tu dors. Après les concerts, en gros, soit tu les as super, t'es super content et du coup tu t'endors pas.
Ah, tu le dis dans le livre. Ouais. Tu dis il y a deux sortes de trucs qui t'empêchent de dormir, le super concert et le concert pourri.
Bah ouais, parce que c'est un moment qui est un peu bizarre, ce sorte de palier comme ça que t'as après avoir été face à une salle, cette électricité qu'il y a, et puis tout le monde a l'air de bien t'aimer, et puis après tout le monde rentre chez soi, et puis c'est sûr que t'es à l'hôtel, tu te dis ah, mais tous ces gens qui m'aimaient bien, ils sont plus là, donc c'est un classique qui est plutôt drôle, tu vois, de la vie de tournée, mais qui fait que tu mets un peu de temps à t'endormir en général.
Tiens, ce deuxième livre, on a évoqué tout à l'heure celui avec ton grand-père, le deuxième qui s'appelle Songwriting, avec des belles photos aussi. En fait, toutes les photos, c'est toi qui les fais.
Oui, c'est ce qu'on n'a pas dit sur le bouquin sur mon grand-père, c'est que du coup, il m'a parlé de plein de lieux, de sa jeunesse.
T'as aidé à les shooter.
Et j'ai été effectivement les photographier tels qu'ils sont devenus aujourd'hui, tels qu'ils ont, des fois, ils ont disparu. Et c'était, c'est pour ça que ça s'appelle C'est un lieu qui existe encore, parce que c'est une phrase qu'il dit dans l'entretien. Il me parle de l'adresse où il est venu quand il avait 7 ans habiter dans Paris, aux 7 rues là-bas. Et il me dit, mais c'est un lieu qui existe encore. Et ça a été une sorte de déclencheur pour moi. Je me suis dit, ah oui, en fait, j'y ai jamais été. J'ai été voir à quoi ça ressemblait. J'ai réussi à rentrer. Il y avait des travaux. Donc j'ai fait des photos dans la cage d'escalier en essayant de me demander si c'était bien son point de vue à lui quand il habitait là, tout ça. Donc c'était une sorte de fil comme ça que j'ai pu tirer et qui était, c'était fort parce que quand j'ai fait le projet, il était déjà parti.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ben écoute, tout à l'heure, on parlait de notre génération et du coup, j'avais envie qu'on entende Keren Ann parce que c'est quelqu'un, on a fait pas mal d'émissions ensemble avec toi, ouais, Eric aussi. Ouais,
ouais. J'adore cette fille.
À nos débuts, donc comme je te voyais, ça me faisait plaisir d'entendre un titre d'elle.
Premier album, hein, Not Going Anywhere.
Premier album en anglais.
C'est Vincent Delerme qui programme sur RTL jusqu'à 1h du matin, la première heure de la semaine. This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why whisper when vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I am not going anywhere. This is why I always whisper. Listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay. Walk away, but I am not going anywhere. en 2003 sur RTL, Not Going Anywhere, choisi par Vincent Delerme dans sa première heure. C'est chouette d'écouter Karine. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson en plus.
Ah ouais, c'est vraiment tout ce disque, vraiment un super disque.
Ouais. Il y a un autre bouquin qu'on a évoqué très vite, L'été sans fin, donc des photos de Vincent Delerme qui évoque. Alors c'est quoi? En fait, ça me fait la passerelle pour parler du jeune Vincent, évidemment. C'est quoi? C'est les vacances en famille?
Oh, écoute, pas tellement. Enfin, c'est tout. En fait, c'est-à-dire, c'est la sensation d'été. C'était ça l'idée. C'était vraiment de faire des photos qui vont chercher prise en été et qui vont chercher un peu à ramener les parfums d'été, quoi. Donc, ça peut être des matières, des lieux, évidemment. Mais c'est vraiment comme ça. Souvent des photos de détails, de sable, de pierre, de choses comme ça. Et après, bah ouais, des fois, évidemment, il y a un écho qui peut se faire avec l'enfance. Et puis des fois pas aussi. Il y a beaucoup de photos que.
Les vacances de la famille Delerme, c'était donc l'Atlantique.
On suçait des glaces à l'eau. le matin, on se réveillait tôt.
Et tu sais quoi? J'ai appris que c'était Pierre Gros qui avait écrit cette chanson.
Ah bah oui.
Bah oui, mais j'ai appris ça il y a deux.
C'est autobiographique.
Bah ouais, au début, ouais. quand t'écoutes Michel Jonas chanter cette chanson, tu dis ouais, quelle belle histoire. Et en fait, c'est Pierre Gros qui était. Il m'a raconté qu'en fait, il est parti sur une phrase. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, mon frère.
Ah oui.
On regardait les autres gens.
C'est souvent comme ça.
C'est canon.
Mes parents avaient un problème avec cette chanson parce qu'ils me disent toujours non mais il dit genre on avait une enfance un peu pauvre parce qu'on était là, on suçait des glaces à l'eau, et ils me disaient toujours mais nous on n'avait pas l'argent pour s'acheter des glaces à l'eau. Du coup c'est comment il se fait passer alors qu'il avait du bol d'avoir des glaces à l'eau, et c'est drôle. J'ai toujours entendu ça quand j'étais petit, ça me marquait parce que je me disais mais de quoi il parle là, truc. Bon bref, en tout cas c'est une belle chanson.
Les vacances, disais-je, atlantiques avec la famille Delerme.
Ah oui, c'était très ambiance vieux boucaux. On allait voir des courses de vachettes et on s'achetait des chichis en sortant.
Mais oui, j'avais oublié les courses de vachettes, évidemment. Ah, bah oui, c'est évidemment. Génial. Et ça se passe dans les années 70-80 pour ce qui te concerne, toi.
Non, écoutez, tu viens d'avoir 40 ans. De 1976. Non, oui, c'est 84-85. Et du coup, j'ai emprunté donc le titre L'été sans fin à Étienne Dao.
Pas faux.
Une titre d'une chanson d'Étienne, mais je vais demander la permission.
C'est vrai?
Bah oui.
À quoi tu rêves? Parce que t'as plutôt envie de jouer au tennis quand t'es petit que d'être chanteur ou pas?
Que de voir des courses de vachettes.
non, mais c'est plutôt le sport ton truc, non, au début?
Ah, écoute, je sais pas si je me pose la question, mais en tout cas, c'est vrai que j'adorais faire du sport et tout, mais j'adore aussi créer du spectacle. Ça très, très enfant. Avec les bandes d'enfants, d'amis de mes parents et tout ça, j'étais toujours le type qui organisait les trucs. Qui disait, attends, toi tu vas faire ça, puis tu vas passer à cet endroit-là. J'aimais bien mettre en scène. Et j'avais pas du tout l'idée de chanter. Mais par contre, l'idée de. Bah, je me le formulais pas activement, hein, que je voulais faire ça plus tard, mais j'avais un vrai goût pour ça. Mes parents m'ont emmené voir beaucoup de trucs de théâtre, de chansons, et cette excitation-là d'être d'une salle comme ça, d'être dans le public, d'attendre que le spectacle arrive, et je l'ai toujours. J'ai toujours. Évidemment, beaucoup de plaisir à faire des spectacles, mais aussi beaucoup de plaisir à aller voir des spectacles.
Et le piano, ça arrive quand comme Scheller, Barbara.
Ah, tard, Berger. Ça arrive à 15-16 ans, parce que pour apprendre à jouer des chansons. Tu vois, j'ai pas eu de formation classique. Mais, voilà, j'étais. Mes parents se disaient, bon, bah, le jour où il aura envie de faire ça, il apprendra. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'était un moment où il y avait. L'album de Scheller, effectivement, il y avait...
Scheller en solitaire?
Ouais, je dis l'album de Scheller.
Quel album? Sûr. Non, mais quel
l'album de Scheller en solitaire, mais c'est très fort parce que c'est des chansons qui étaient des anciennes chansons de lui, mais qu'on a réentendues autrement. Et comme ça, débarrasser des orchestrations de manière très brute, très pure. Et cette idée que ça se suffisait comme ça d'un mec tout seul à son piano qui avait un truc très, très sensible. Et après, d'une façon générale, j'étais touché par tous les gens que je voyais chanter au piano. Je trouvais ça mieux, c'est bête à dire, mais j'adorais Barbara. Mais même si je vois aujourd'hui un concert de McCartney, le moment où il se met au piano, ça me fait un effet très fort.
Tu parles de McCartney, les Beatles, ça fait partie des choses.
Les Beatles, c'est évidemment leur musique, mais c'est aussi tout ce qui est périphérique, évidemment, la folie autour d'eux. Puis après, tout ce que ça a généré, j'adore tous les bouquins, que ce soit le mec qui est le premier batteur des Beatles qui écrit...
Pete Best.
Et après, tu vois, il y a un bouquin que j'adore qui est le mec qui garde les enfants de John Lennon au Dakota les trois dernières années de la vie de Lennon. Et il raconte tout, l'intérieur, les relations entre Yoko et John. En fait, c'est un mec qui est jeune et qui espère, qui est un fan des Beatles et qui espère que Lennon va refaire un album. Et en fait, Lennon passe à ce moment-là son temps à jouer de la basse en regardant la télé. Et puis à la toute fin, il fait quand même évidemment Double Fantasy. Mais du coup, enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est quand même dément de penser qu'un groupe a été si important que tu peux faire l'ingénieur du son peut faire un bouquin, le mec à garder les enfants peut en faire un, le premier batteur aussi.
Et que ça intéresse, et que ça intéresse en
bah
plus.
Bah ouais, ouais, c'est fou.
Tiens, on parle de musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Vincent Delerme?
Bah du coup, comme je vais emprunter une chanson, on va écouter Dao.
On va écouter Étienne. Alors, je t'avais proposé la version live, tu m'as dit non, surtout pas. On va écouter la version originale. Voici Arindou sur RTL, choisi par Vincent Delerme. Vincent Delerme a choisi Étienne Dao, Arindou. Pourquoi cette chanson précisément, d'ailleurs, Vincent?
C'est vraiment un climat. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais plutôt la version studio que scène. C'est pas du tout contre la version de scène. C'est juste qu'il y a... C'est curieux comme t'imprimes des trucs comme ça liés aux résonances de synthé. C'est... Elle est très curieuse, cette chanson. Tu sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça te touche et puis t'as même pas envie tellement de comprendre. Et ça vraiment, c'est... Ouais. C'est des chansons qui font partie de nos vies. Tu t'aimes même plus à te dire... si t'es pour ou contre, si enfin c'est juste, voilà, ça fait partie de nous.
Mmh, oui, t'as raison. Et c'est une question générationnelle, même si je suis beaucoup plus vieux que toi. On va se ramener un peu les pieds sur terre en revenant à ce qui va être ta semaine. Je rappelle qu'il y a un album
Attention,
qui sort.
Attention, s'il te plaît.
Il y a un album qui sort. Il y a 3 livres chez Actes Sud. L'été sans fin, Songwriting. On en a parlé. Hein. C'est un lieu qui existe encore. C'est le 3e livre. La manière de faire la promo, de vendre ce que tu fais, parce que c'est un peu le vilain mot. Est-ce qu'elle a changé avec l'expérience, Vincent? De 15 ans de carrière, un peu plus maintenant.
Oh, écoute, ça, je ne saurais pas trop dire. J'imagine que oui, j'espère, parce que j'ai l'impression que dans tous les compartiments du jeu, forcément, tu changes des choses. Après, ce qui est certain, c'est quand tu commences, tu as vraiment l'impression que tout se décide très tôt. Et ça, c'est valable aussi, même quand tu fais les arrangements du premier disque. Tu te dis, en fait, si on met trop de trompettes, on va se dire que je suis un chanteur qui met trop de trompettes. Enfin, si en promo, je fais ça, on va se dire que ça. Et après, tu te détends quand même, parce que tu sais. Mais c'est vrai que au début. Et c'est pas complètement faux, hein, parce que l'image que tu dégages au début, elle est très prégnante. Après, elle reste, hein, vraiment.
Et c'est un truc que t'as travaillé, toi, quand même, parce que tu dis, au début, on disait que je traînais trop sur la voix, tu le fais plus. On disait que tu faisais beaucoup de name-dropping, t'as essayé d'en faire un peu moins. Enfin, t'as écouté quand même ce qu'on
disait.
Ah oui,
ça comptait pour moi. Après le deuxième album, je me disais, bah, voilà, il y avait toujours cette idée, il y a des gens qui aiment bien, d'autres que ça agace, machin. Puis moi, j'avais pas à cœur d'énerver les gens, tu vois, donc... Le côté parfois un peu trop nonchalant, des fois je me retrouve à faire des émissions de télé que ça ne me passionnait pas de faire, du coup je me disais qu'est-ce que je fous là, et ça se voyait un peu. Donc après je me suis dit, bon bah soit t'y vas, soit t'y vas pas.
Tu recommencerais le coup du journal?
Oh, je crois que je recommencerai un peu tout, ouais, parce que...
Je rappelle,
c'est partie de la construction.
Je ne sais plus quel était le comique qui balançait beaucoup, et Vincent, que visiblement ça emmerdait, c'était sur Canal, dans l'émission de Stéphane Bern d'ailleurs, oui. T'as pris l'équipe et t'as lu le journal pendant qu'il faisait son papier.
Bah c'était Stéphane Guillon en l'occurrence, c'est pas vraiment
voilà.
Un comique, mais non, mais je pense pas que lui adorerait qu'on dise que c'est un comique. Mais en plus, c'est pas que j'ai rien contre lui, mais c'était juste que c'était un moment... Où c'était quelque chose qui s'était un peu généralisé en télévision, tu y allais.
Pour te faire des
effectivement, français. Faire la promo, donc effectivement, ça revient quand même à vendre tes trucs. Mais au nom de ce truc-là, en fait, en gros, t'étais assis, puis t'étais filmé, puis tout le monde arrivait soit en t'imitant, soit en se foutant de ta gueule. Et là, du coup, t'es filmé, donc t'es censé te marrer d'un truc qui te fait pas marrer. Et au bout d'un an, je me dis, oh, est-ce que c'est vraiment... Donc là, je me dis, tiens, je vais prendre un journal, au moins ça me donnera une contenance, quoi, tu vois.
Oui, ça fait parler quand même, cette histoire. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses désormais en promo, Vincent Delerme?
Oh, bah oui, ça a toujours été.
Ouais.
Mais c'est au coup par coup. C'est ça. Il faut, en fait, tu sais, quand tu commences, quand t'es jeune, tu te dis, bon, bah, si un jour ça marche pour moi, il faudra quand même pas que je fasse ça et ça et ça. Mais c'est pas des positions, comment dire, morales ou je sais pas quoi, c'est juste qu'il y a des fois tu t'y sens pas, tu te dis c'est pas pour moi parce que j'ai l'impression que je vais pas arriver à faire passer ce que j'ai envie de faire passer, tout simplement.
Oui, et puis aussi des gars qui sont des professionnels de la promo, je pense à un mec comme Kad Merad qui est un génie devant la télé parce qu'il a la vanne rapide, parce qu'il sait faire le clown, etc. Peut-être qu'on sait, il y a des gens qui savent moins faire.
Oh bah carrément, et puis il y a des contextes dans lesquels c'est marrant, la même personne peut être très à l'aise et très marrante, et d'autres moments complètement éteinte et crispée selon un peu les ondes, tu vois, qui se dégagent. Après, nous, c'est un métier à part entière. Tu fais tes chansons, ça devrait presque à la limite suffire. Tu vois, tu devrais rester dans ton coin une fois que tu as fait ton album. Mais on sait que ça fait partie du jeu et c'est un truc qui est intégré. Mais c'est sûr que ça a changé. Je pense qu'il y avait moins besoin de ça. Il y avait besoin d'assurer devant Denise Glaser, peut-être quand tu étais en 65
et tout. Ah ouais,
parce que
Denise Glaser, c'était une heure d'interview et que c'était autrement travaillé.
En tout cas, c'était effectivement dans la durée, tu as toujours quand même mieux le temps de montrer qui tu es, de faire comprendre quelque chose, à la fois de dire des trucs pour faire sourire et de dire des trucs un peu en profondeur et un peu important pour toi. Et le petit péril qu'il y a des fois pour nous, c'est qu'on te dit, bah là, t'as 2 minutes 30 et il faut que tu montres que t'es très marrant, que t'es très intelligent et que ton album est génial. Et du coup, ça ne marche pas.
Et si tu pouvais arriver d'ailleurs déguisé en schtroumpf pour Cyril Hanouna, tu le ferais?
Alors écoutez, je ne sais pas d'où vous tenez cette information.
Non, c'était une blague.
Non, mais
c'est difficile d'exister dans ce genre
d'émission. En fait, on passe tous...
Rien contre Cyril d'ailleurs, hein, c'est juste un style
plutôt
d'émission.
Plutôt contre les schtroumpfs, oui. c'est très difficile, on place tous notre limite à un endroit où on sait qu'on ne va plus être soi et que ça n'a plus de rapport avec la choucroute, quoi. Parce que j'ai fait un 10, c'est voilà. Encore une fois, ça change aussi, effectivement, t'as raison. Au fur et à mesure des années, tu modifies des choses. Et puis, peut-être que t'apprends à dire un peu plus souplement non qu'au début, où des fois, tu as l'impression d'être piégé ou d'être allé à un endroit Parce qu'au bout d'un moment, tu connais aussi. Tu connais les règles du jeu et c'est plus simple. Voilà.
Ardisson dit que...
Jean-Jean. Je sais pas. D'accord, on y va.
Je paye en ticket restaurant. Ardisson dit que la clé d'un entretien réussi, c'est l'alcool. Tu sais, quand il faisait durer les émissions pendant 5-6 heures.
Il est mort, Ardisson, parce qu'il dit des trucs. Je dis genre, les gens, ils préfèrent... aller se faire reluire chez Drucker parce qu'il passe de la pommade plutôt que d'aller chez Ardisson. Et c'est Souchon qui me parle toujours. Il dit bah oui, carrément, c'est quand même vachement plus agréable. Et c'est vrai que c'est drôle parce que il faudrait être hyper pervers vu de notre côté pour préférer
aller
au casse-pipe chez Ardisson que d'aller sur un canapé confortable.
Qu'est-ce qu'on écoute? Ce sera la dernière chanson, hélas, de l'émission, Vincent Delerme.
Bah écoute, on parlait d'avoir appris le piano tard et il y avait vraiment un groupe dont j'étais fan du clavier. Je voulais jouer comme lui, c'était le pianiste de Madness. Donc on va écouter My Girl de Madness.
Tonight, I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here. My girl's mad at me. Been on the telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't.
Madness et My Girl, choisi par Vincent Delerme sur RTL pour la dernière ligne droite de cette émission. C'est rigolo parce que, tu vois, Madness, j'aurais pas du tout pensé au clavier, moi. J'aurais plutôt pensé au sax, j'aurais plutôt pensé...
Ah oui, oui. Ah, c'est important aussi, quand même. Et d'ailleurs, Monsieur Barzo, le clavier, c'est lui qui a composé cette chanson, tu vois.
Et ben voilà. Vincent, on arrive à la dernière partie de cette émission. J'ai un questionnaire rapide, vite fait.
Je t'écoute.
Une série de combien pour commencer? Combien d'heures de sommeil, Vincent Delerme?
6, je dirais.
Combien de clopes par jour?
Je peux dire 6 pendant toute l'interview. Non, 0.
Jamais fumé?
Eh non.
La classe. Oui. Combien de verres d'alcool par semaine? 6.
Oui, oui, ça marche. Ça marche pas mal en fait.
Séance de sport par semaine?
2.
Ouais, t'es sportif toujours.
À fond, ça se voit pas.
D'ailleurs, t'es tout mince là.
Ah bah je te remercie.
Non mais t'as maigri.
C'est évident, t'as mis du temps à le dire.
Mais non, mais
je pensais que ça viendrait en début d'interview.
Oui, mais je veux dire, mais tu vois, je vais pas non plus faire un conseil sur ta silhouette dès que t'arrives, tu vois, ça, les gens vont se méprendre et ça jaserait. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'aimerais rester coincé dans l'ascenseur?
Oh bah plein de gens, ouais, mais pas tous à la fois. Non, c'est bête, mais je dirais quand même des chanteurs. C'est vrai que c'est drôle, c'est le truc qui quand tu fais ce job, t'as toujours du plaisir à apprendre des grands anciens, notamment. Donc voilà, donc d'Aznavour, mettons.
Pas mal. Quelques phobies, ascenseur, avion, voiture, solitude?
Alors non, pas du tout solitude. Non, je suis plutôt... qu'est-ce que j'ai comme phobie aussi, voiture un peu. Genre,
ah ouais.
Mais j'ai
t'es
pas
très phobique. T'es pas très...
Non, pas très. Par contre, je vois beaucoup d'accidents. J'imagine très bien comment ça ferait si la voiture se crachait.
Ah bon ?
Ou si tu tombais du balcon. Enfin, tu vois, je visualise le truc.
C'est un peu flippant ce que tu racontes, Vincent.
Oui, mais en fait, du coup, j'ai l'impression de voir venir le truc.
Ouais. Hypochondriaque.
C'est vraiment une thérapie de groupe, cette émission.
Hypochondriaque ?
Non.
Des tatouages ?
Ah, pas énormément.
Des cicatrices ?
Oui, j'en ai une sur le coude, mais je pense que là, ça va bien intéresser les gens.
Oui, les gens veulent te connaître intimement.
Du courrier un petit peu.
Quelle est la chose qu'il ne faut pas faire devant toi ? Surtout pas.
Oh ben embrasser ma femme, j'imagine.
Ça va m'énerver. Et pour finir, qu'est-ce que tu considères comme être ton plus grand défaut ?
Je dirais que je peux être un peu impatient, c'est pas un gros défaut. Oh la vache, putain, c'est un peu la honte, le mec qui trouve pas son défaut, c'est genre le mec qui
défaut. Parle-moi de ta belle qualité.
De qualité, je suis assez facile à vivre.
C'est la fin de cet entretien.
Je
rappelle que l'album sort vendredi, il s'appelle À présent. Il y a aussi 3 livres qui sortent aux éditions Actes Sud, des photos de Vincent avec des commentaires de Vincent. Et puis pour les Parisiens, il y a La Cigale du 28 au 30 novembre et puis une tournée dans toute la France. C'est reparti pour un tour.
Ah ouais.
Pas tout à fait le bus tour, mais pas loin.
Il y en aura sûrement un peu aussi, mais en tout cas, c'est évidemment, tu fais les chansons, tu penses qu'à ça. Tu penses qu'est-ce que ça va donner sur scène, donc on est content d'y aller. Là.
Grosse formation ?
Non, je pense pas, mais c'est encore à déterminer. Mais je pense pas. L'album est très très orchestré, donc souvent dans ces cas-là, c'était le cas sur Kensington dont tu parlais tout à l'heure, qui avait beaucoup de cordes aussi. J'étais parti carrément tout seul derrière, c'était un peu extrême.
Là, je t'ai vu cet été avec 2 pianos.
Ouais.
Pas mal.
Bon, bah écoute, si
validé.
Bon, ouais, écoute, très bien. En tout cas, s'il y a 2 pianos, vous pourrez vous en prendre à Eric Jean-Jean.
Merci Vincent d'avoir été avec nous.
Bah, je t'en prie, Eric. À bientôt. Plaisir.
Salut à tous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Rediff de cette émission samedi prochain entre 23h et minuit. C'était la première heure de Vincent Dolerme. Il est 1h du matin sur RTL.